15h10.
Chapitre 34. La table de la chambre.
Il est midi. Boulette de farine, le maître d'hôtel passe son pâle visage couleur de mie de pain par l'écoutille de la chambre et annonce le dîner à son seigneur et maître, lequel, assis dans la baleinière sous le vent, vient d'effectuer une observation du soleil et calcule maintenant en silence sa latitude sur l'emplacement lisse en forme de médaillon réservé à cet usage quotidien dans le haut de sa jambe d'ivoire. À en juger par sa parfaite indifférence à cette nouvelle, on pourrait croire que le morose Akab n'a pas entendu son domestique. Pourtant, il agrippe bientôt les haubans d'Artimon, se hisse sur le pont et lance d'un ton égal et sans joie « Dînez, monsieur Starbuck !» Et il disparaît dans la chambre. Quand le dernier écho de son pas de sultan s'est évanoui et que Starbuck, le premier émir, a toute raison de le croire assis à sa table, il sort de son humeur quiète, va et vient un instant sur le pont et après avoir fixé l'habitacle d'un air grave, annonce à son tour, avec une note de jovialité dans la voix, « Dînez, monsieur Stubb !» Et il s'engouffre dans l'écoutille. Le deuxième émir flâne un moment autour du gréement, secoue légèrement le bras de la grande vergue pour s'assurer que tout va bien du côté de cet important filin. Puis, entonne le refrain traditionnel « Dînez, monsieur Flask !» Sa formule rapidement débitée, il prend le chemin de ses prédécesseurs. Le troisième émir, lui, qui se voit maintenant seul sur le gaillard d'arrière, paraît libéré d'une curieuse entrave. Il décoche des œillades un peu partout à la ronde, envoie d'un coup valser ses chaussures et se lance dans une matelote effrénée mais silencieuse, jusqu'au-dessus de la tête du grand turc. Avec une adresse de prestigitateur, il envoie en l'air sa casquette qui va se poser sur la hune d'Artimon, puis il descend l'écoutille sans cesse de faire des cabrioles, du moins tant qu'il reste visible du pont, fermant la marche en musique au rebours des processions ordinaires. Mais avant de franchir le seuil de la chambre en bas, il s'arrête, se compose un visage entièrement différent. Alors le joyeux, l'indocile petit Flask paraît devant le roi Akab dans le rôle d'Abjectus l'esclave. Ce n'est pas la moindre des étrangetés qu'engendre le caractère excessivement artificiel des us et coutumes du monde marin que de voir certains officiers, quand ils sont sur le pont à l'air libre, résister hardiment à une provocation de leur commandant, voire le défier, alors que 9 fois sur 10, ces mêmes officiers, installés l'instant d'après à la table de ce même commandant pour prendre leur dîner habituel, retrouvent sur le champ en air doux une figure humble, pour ne pas dire coupable, devant celui qui se tient à la place d'honneur. La chose est étonnante, parfois, d'un comique achevé. D'où vient ce changement? Quel est le problème? Et y en a-t-il un? Avoir été Balthazar, roi de Babylone, puis simplement Balthazar, sans morgue aucune, mais cette fois avec courtoisie, cela démontre une sorte de grandeur mondaine. Mais l'homme, qui à la table qu'il préside reçoit ses hôtes avec l'intelligence d'un vrai seigneur, celui-là dispose le temps du repas d'un pouvoir et d'un empire personnel incontesté sur les esprits. Sa souveraine autorité surpasse celle de Balthazar, car Balthazar ne fut pas le plus grand. Quiconque a une fois régalé ses amis sait ce que ça veut dire être César. Impossible de se défendre contre la magie de cet absolutisme social. Et si, à cette observation, vous ajoutez la prééminence officielle du capitaine, vous comprendrez la raison de cet aspect singulier de la vie maritime que nous venons d'évoquer. Assis à sa table, incrustée d'ivoire, Akab présidait tel un lion de mer, muet, sous son abondante crinière, entouré sur une plage de corail blanc, de ses belliqueux, mais toujours déférents petits. Chaque officier attendait son tour d'être servi. Ils étaient devant Akab, pareils à des enfants, sans pourtant que le capitaine manifestât en rien une arrogance liée à sa position sociale. Avec une seule et même extrême attention, il suivait le couteau du vieil homme, découpant le plat de viande posé devant lui. J'imagine que pour rien au monde, il n'eût osé profaner cet instant en s'autorisant la plus insignifiante remarque, fût-ce sur un sujet aussi neutre que le temps qu'il faisait. Non. Et lorsque, tendant vers Starbuck la tranche de bœuf serrée entre fourchette et couteau, Ahab l'invitait à avancer son assiette. Le second recevait son morceau de viande comme si c'eût été un aumône. Il le coupait d'un geste tendre, tressaillait, si d'aventure son couteau raclait le fond de l'assiette, le mâchait en silence et l'avalait précautionneusement. À l'instar du banquet de couronnement à Francfort, où l'empereur germanique dînait, loin de tout regard, avec les 7 électeurs de l'Empire, ses repas dans la chambre se déroulaient avec une certaine solennité et dans un silence impressionnant. Ce n'est pas qu'à sa table, le vieil Ahab interdit toute conversation. Simplement, lui-même restait muet. Quel soulagement pour Stubb, au bord de la suffocation, quand Ara faisait soudain un tapage dans la cale. Quant au pauvre petit flasque, le Benjamin, le dernier né de cette lugubre réunion de famille, c'était à lui que revenait l'os du jarret de bœuf salé, à lui que fut revenu le pilon. Pour Flasque, la simple idée de se servir à cette table n'eût sans doute pas été très différente de l'envie de commettre un larcin. Et, eût-il succombé à la tentation, il n'eût probablement plus jamais pu garder la tête haute parmi les honnêtes gens. Pourtant, chose étrange, Ahab ne lui avait jamais interdit. Et eût-il fait le geste, Ahab, selon toute vraisemblance, ne s'en fût même pas aperçu. Flasque se fût moins que tout risqué à se servir de beurre. Soit qu'il pensât que les amateurs le lui refusaient, afin de ne pas gâter son teint clair et sain, ou qu'il estimât que, du fait de la durée du voyage et de l'absence de marché en mer, le beurre était une denrée de grand prix à laquelle un subalterne tel que lui n'avait pas droit. Quelle qu'ait pu être l'explication, Flasque, hélas, ne mettait donc jamais de beurre dans son assiette. Autre chose, Flasque, qui était le dernier à descendre à la table du dîner, était aussi le premier à la quitter, imaginez. Son repas est affreusement comprimé dans le temps. Starbuck et Stubb ont de l'avance sur lui, mais aussi le privilège de pouvoir s'attarder. Si Stubb, qui n'est que d'un petit degré le supérieur de Flasque, se met à table avec un peu d'appétit et montre bientôt, par certains signes, qu'il va achever son repas, Flasque alors, ce jour-là, quelque hâte qu'il déploie n'avalera pas plus de 3 bouchées, car les sacro-saints usages de la mer interdisent que Stubb précède Flasque sur le pont. D'où cet aveu qu'il fit un jour en privé. Depuis qu'il s'était élevé à la dignité d'officier, m'expliqua-t-il, il n'avait pas cessé d'être plus ou moins tenaillé par la faim. Car ce qu'il mangeait, loin de calmer sa faim, l'entretenait en permanence. La paix et le contentement, songeait Flasque, ont à jamais déserté mon estomac. Je suis officier, mais comme j'aimerais pouvoir empoigner un bon morceau de bœuf dans la gamelle du gaillard d'avant, ainsi que je le faisais quand je n'étais qu'un simple matelot. Tels sont les fruits de l'avancement, telle est la vanité de la gloire, telle est l'insanité de la vie. Et puis, s'il arrivait qu'un marin du Pequod cherchât à s'assurer une solide vengeance pour un tort commis à son endroit par Flasque dans ses fonctions officielles, il lui suffisait de se rendre à l'arrière au moment du dîner et de glisser un coup d'œil par la lucarne de la cabine pour découvrir un Flasque ahuri comme idiot devant le terrible Ahab. Le capitaine et ses 3 lieutenants formaient ce qu'on peut appeler le premier service dans le carré du Pequod. Après leur départ, qui s'effectuait dans l'ordre inverse de celui de leur arrivée, la table s'était débarrassée de sa nappe de toile, ou du moins, hâtivement remise en ordre par le pâle maître d'hôtel. Les 3 harponneurs étaient alors conviés au festin en qualité de légataires à titre universel. Le seigneurial carré en devenait pour un temps une sorte d'office pour les domestiques. Par un curieux contraste, après la contrainte à peine supportable et l'invincible et innommable tyrannie qui régnait à la table du capitaine, venait l'insouciance, le sans-gêne et la totale liberté, mais aussi la démocratie effrénée, pourrait-on dire, de ces êtres inférieurs qu'étaient les harponneurs, alors que les lieutenants, leurs maîtres, semblaient avoir peur du bruit des articulations de leurs propres mâchoires. Les harponneurs prenaient un plaisir extrême à mastiquer leur nourriture de manière retentissante. Ils mangeaient comme des seigneurs, ils remplissaient leurs panses comme des navires des Indes en partance, se chargent d'épices du matin au soir. Kiket d'Ashtigo avait un si formidable appétit que, pour combler le vide creusé depuis le précédent repas, le pâle boulette de farine devait souvent emporter un gros aloyau de bœuf salé, qui semblait avoir été taillé à l'instant dans l'animal vivant. Et s'il ne mettait pas assez d'empressement à le préparer, s'il ne s'exécutait pas illico presto, Tashtego avait alors un moyen fort peu distingué de le presser. Il lui harponnait le derrière avec sa fourchette. Et une fois Dagout, ainsi saisi d'un soudain caprice, rappela Boulette de Farine à sa tâche en le saisissant à bras-le-corps et en lui appuyant avec force la tête contre un grand tranchoir de bois, tandis que Tashtego, le couteau à la main, commençait à tracer le cercle préalable au scalp. Il était par nature craintif et excessivement nerveux. Ce petit gars au visage de mie-de-pain, rejeton d'un boulanger failli et d'une infirmière d'hôpital, et sa vie partagée entre le spectacle permanent du sombre et terrible Akab et les visitations périodiques tumultueuses de ces trois sauvages, n'était qu'un long tressaillement. D'ordinaire, après s'être assuré que les harponneurs avaient tout ce qu'ils réclamaient, ils s'arrachaient à leurs griffes et allaient se réfugier dans sa petite dépense attenante. Là, il les observait, tout apeuré, à travers le treillis de sa porte jusqu'à ce qu'ils eussent terminé. C'était un fameux spectacle que celui de Kikeg installé en face de Tashtego. Ses dents limées rivalisaient avec celles de l'Indien et Dagou, assis entre eux à même le sol, car un blanc eût amené son chef emplumé comme le dé d'un corbillard au niveau des basses traverses du plafond, chaque mouvement de ses membres colossaux secouait la charpente de la petite chambre, ainsi que ferait un éléphant d'Afrique embarqué comme passager. Cependant, le grand nègre était étonnamment sobre, pour ne pas dire délicat. On avait du mal à croire que de si petites bouchées puissent entretenir la vitalité qui irradiait dans toute la largeur de ce superbe corps de seigneur. Mais le noble sauvage devait trouver dans le généreux élément aérien de quoi faire des repas plantureux et bien arrosés. Il aspirait par ses narines dilater la vie sublime des mondes. Ce ne sont ni le bœuf, ni le pain qui font ou nourrissent des géants. Kikeg, quant à lui, faisait en mangeant un claquement des lèvres barbare assassin, assez répugnant, à vrai dire, tel que le tremblant boulette de farine en serait presque venu à chercher des marques de dents sur ses bras maigres. Et lorsqu'il entendait Tashtego lui claironner et se montrer afin qu'on pût grignoter ses os, ce garçon, un peu simplé, était pris soudain d'une crise de paralysie agitante qui menaçait de venir à bout de la vaisselle accrochée aux cloisons de la dépense. Quant aux pierres à aiguiser que les harponneurs portaient dans leurs poches pour affûter leurs lances et armes diverses, et sur lesquelles, au dîner, ils affilaient ostensiblement leurs couteaux, elles produisaient des grincements peu faits pour rasséréner le pauvre boulette de farine. Comment eût-il pu oublier que Kikeg, du temps qu'il vivait sur son île, s'était sans doute rendu coupable avec ses commensaux de quelques bêtises criminelles. Las, boulette de farine. Dur est le sort du blanc qui sert des cannibales à table. Ce n'est pas une serviette qu'il devrait porter au bras, mais un bouclier. Mais venant enfin le moment où, pour sa plus grande joie, les trois guerriers de la mer se levaient et partaient, et à ses oreilles crédules et avides de fables, tous les os de leur martial squelette cliquetaient à chaque pas, tels des cimetières mauresques dans leurs fourreaux. Mais bien que ces barbares dînassent dans le carré et fussent censés y vivre, leurs habitudes, rien moins que sédentaires, ne les y amenaient que pour les repas et un peu avant l'heure du coucher, lorsqu'ils le traversaient pour regagner leur quartier personnel. Sur ce chapitre, Akam ne semblait pas différer de la plupart des capitaines baleiniers américains qui, dans leur ensemble, ont tendance à considérer que la chambre du navire leur appartient de plein droit, et que seule la courtoisie les y fait tolérer. À l'occasion, un autre que. De sorte qu'il faudrait dire, en toute justice, que les officiers et les harponneurs du Pequod vivaient plutôt hors de la chambre que dedans. Car quand ils y entraient, c'était un peu comme fait une porte dans une maison, qui s'ouvre d'abord vers l'intérieur pour être repoussée vers l'extérieur l'instant d'après. Ils ne perdaient pas grand-chose à vivre, comme elle, de façon permanente au grand air, car il n'existait aucune camaraderie dans la chambre. La fonction d'Akab le rendait inaccessible. Bien qu'il fût compté au nombre des habitants du monde chrétien, il y demeurait étranger. Il vivait sur terre comme le dernier grizzly vécu dans le Mississippi colonisé. Il vivait sur terre comme le dernier grizzly vécu dans le Missouri colonisé. Slogan des bois, quand printemps et été avaient fui, s'ensevelissait dans le creux d'un arbre et y passait tout l'hiver à se lécher les pattes. De même, dans son vieil âge morne et livré aux orages, l'âme d'Akab, enfermée dans le fût évidé de son corps, rongeait maussadement les griffes de sa mélancolie.